Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Bruno Picard.
Bonne écoute.
Le roi des rois dit ce matin. Et même si tu es loin, et même si tu es distant, mon cœur de père t'attend. T'attends les bras ouverts, t'attends le cœur rempli d'amour pour toi. Et le père dit. Et même si tu m'oublies si souvent, et même si tu m'ignores si souvent, mon cœur de père t'attend, il attend que tu viennes. Et le père dit ce matin, la robe est prête, elle est l'alliance t'attend. Et les sandales sont là pour le fils ou la fille qui revient. Et moi le cœur de père, mon cœur de père dit, je t'attends mon enfant. Pourquoi resterais-tu si loin de moi si longtemps? J'ai tout préparé, j'ai tout accompli, j'ai tout fait pour que tu viennes dans ma présence. Alors je t'attends, viens-tu pas ce matin, ne reste pas loin de moi. Je ne suis pas là pour te juger ni te détruire, mais je suis là, dit le roi. Pour te construire, te fortifier et t'élever. Et le père ce matin dit, mon cœur saigne, mon cœur pleure quand tu n'es pas là. Tu as beau venir avec ton corps seulement, mais moi ce que je cherche c'est ton cœur. Mon cœur saigne quand tu m'adores des lèvres seulement. Car je suis là, en toi, prêt à danser avec toi, prêt à chanter avec toi. N'oublie pas que je suis ton père, n'oublie pas que je suis ton frère, n'oublie pas que je suis ton ami. N'oublie pas que je suis ton Seigneur. N'oublie pas que je suis ton Créateur. N'oublie pas que je suis ton Rédempteur. N'oublie pas que je suis ton Sauveur. N'oublie pas que je suis celui qui te guérit. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas que ce matin je te tiens la main. Aucun péché, rien ne peut m'empêcher.
Ce matin, le roi dit, car le Père cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce matin, tous ceux et celles qui ont entendu le cœur de Dieu et qui se rendent compte que tu es en train d'adorer avec tes lèvres seulement et que tu n'arrives pas ce matin à te connecter à sa présence. Cela est signe. C'est une grave condition qu'il ne faut certainement pas laisser sans surveillance. Tous ceux qui ont besoin ce matin d'être rafraîchis par Dieu s'approchent devant. Levez-vous et approchez-vous devant ce matin. Tu sens ce cœur que Dieu a parlé ce matin. C'est Dieu qui te dit, pourquoi m'adores-tu des lèvres seulement alors que j'attends face à face avec toi. Ce cri du cœur de Dieu qui dit, viens. Viens, viens, viens. N'attends pas. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le rôle du diable est de tout faire pour enlever la joie que Dieu a mis en nous. Et ce matin, le cri du cœur du Père était pour moi en tout cas saisissant. Que Dieu le Père puisse chanter et crier en disant, hey, j'ai besoin que tu viennes vers moi. Je remplace mon Dieu. Ça accroche. Ce matin, Dieu veut vraiment encourager les hommes et les femmes à comprendre qu'il vous aime. Amen. Quand ton voisin dit, Dieu est bon. Merci. Je vais tenter en 30 minutes de prêcher mon message ce matin. Car je crois que beaucoup d'entre vous sont venus pour entendre la parole de Dieu. Amen. Nous avons vu la main de Dieu à plusieurs reprises cette semaine. Et depuis que l'Église prie avec moi tous les soirs, de 10h à minuit, du lundi au vendredi soir, nous commençons à voir des miracles extraordinaires. Nous voyons, allez, si je me rappelle bien ce que le pasteur Marc a prophétisé dans la prophétie ce matin, il disait que même si l'ennemi fait opposition, son opposition n'a aucune valeur. C'est comme si en fait son opposition n'existait pas. Ce matin, Dieu vous dit, peuple de Dieu, si tu te connectes à lui, l'opposition de l'ennemi n'aura aucune valeur. Aucune valeur. Combien ce matin vous savez que Dieu est présent? Combien ce matin vous avez besoin de réellement vous repentir et de vous rapprocher de lui? Il est tellement facile d'adorer l'adoration. Tellement facile de chanter un chant sans se connecter à Dieu. Je me refuse. Chaque jour que Dieu fait, je me refuse de chanter des chants si mon cœur n'y est pas. Si mon cœur n'y est pas, j'arrête tout ce que je fais. J'arrête même mes pensées. J'arrête même le chant. Et je me connecte à Dieu. Amen. Et ce matin, on va parler de mariage. Qui est d'accord? Trop tard, c'est mes notes ce matin. Regarde tes voisins, dis accroche-toi. Ça va cogner. Avant même que je commence ce matin, s'il vous plaît, je vous en supplie. Comprenez que si vous voulez avoir un miracle dans votre mariage ou progresser dans votre mariage ou dans votre futur mariage, vous devez avoir le désir de construire et non pas de détruire. Si vous prenez mes notes et vous les utilisez contre votre conjoint, cela sera à votre détriment. Amen. Alors s'il vous plaît ce matin, s'il vous plaît, posez les feuilles quelque part. Pas besoin de feuilles ce matin. Suivez avec moi et vos feuilles vous seront utiles à la maison. Amen. Par contre, vous pouvez lire les passages de Dieu sur l'écran ou sur vos Bibles. Mais avant de commencer, quelqu'un a demandé... c'est un mariage qui a plus de 50 ans. Et ce jour-là, cet homme et cette femme ont fêté une immense fête avec leurs amis. Et au retour le soir, donc des personnes assez âgées, au retour le soir, les deux se sont mis sur leur balcon. Et puis le mari se tourne vers sa femme et dit, « Tu sais, je me marre avec toi. » Et la femme lui dit, « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit ?» On se répète, « Je me marre avec toi. » La femme répond, « Oui, moi aussi j'ai marre de toi. » Ça peut arriver que ton mari te dise, « Tu es ma star. » Et elle répond, « Toi, tu es ma tare. » Mais ce n'est pas le but de mon message, c'est de vaincre cette tendance à ne pas reconnaître ce que Dieu a mis dans nos vies. Ecclésiaste 9, verset 9, c'est valable pour l'homme et la femme, d'accord? Mais jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie. 1 Pierre 3, 7 nous dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous, le mari, la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Lorsqu'un mari n'est pas tendre avec sa femme et qu'un mari n'a pas de discernement pour voir que la femme est plus délicate et que le mari ne prend pas soin de sa femme comme il se doit, ses prières ne sont pas entendues par Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, nous allons voir ensemble l'importance de la transparence dans le couple. Un mot qui fait peur, mais ô combien important. Genèse 2, 25 dit, l'homme et sa femme étaient toutes nues sans en éprouver aucune honte. Ce matin, Saint-Esprit, tu es dans ce lieu. Je le sais, je le sens et nous avons fait alliance, toi et ton peuple. Ce matin, je sais que tu es là parce que tu veux mettre et prendre la parole de Dieu et l'imprégner dans nos cœurs et consciences afin que l'Église change de l'intérieur vers l'extérieur. Merci de prendre nos cœurs ce matin dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Un jour, quelqu'un demande à un homme marié depuis 50 ans, quel est le secret pour avoir un bon mariage? Et l'homme répond, c'est très facile. Écoutez bien ça. Deux fois par semaine, ma femme et moi allons au restaurant. Il y a des bougies allumées et ensuite nous faisons une longue marche tranquille jusqu'à la maison. Elle va le lundi et le jeudi, moi le mardi et le vendredi. Que Dieu nous préserve. Le mariage a duré 50 ans parce qu'ils passaient beaucoup de temps l'un sans l'autre. Mamma mia. Nous avons vu dimanche dernier que la première des choses à faire, c'est de ramener le mariage sur le modèle divin. Nous avons vu ensemble que c'était l'idée de Dieu, qu'on ne pouvait pas calquer notre mariage sur Hollywood, sur la Cour suprême ou même sur papa et maman. J'aime mes parents, mais je ne peux pas calquer mon mariage sur le leur. Je dois absolument revenir continuellement à l'exemple divin, le mariage que Dieu a instauré dans le jardin d'Éden au travers de Adam et Ève. Amen. Avant la chute, bien sûr. Le mot Éden signifie le prendre plaisir, se réjouir. Écoutez bien ça, Dieu avait placé le premier mariage dans une atmosphère où on pouvait se réjouir, prendre plaisir, apprécier. Le mariage est un endroit dans lequel vous et moi, nous devrions être le plus épanouis, heureux, joyeux, remplis de joie. Voilà. Amen, chérie, crée amen, dis un truc. Et dans Genèse 3, nous voyons que Adam et Ève se rebellent et que leur rébellion a totalement changé la donne. Et le péché a emmené la peur, écoutez bien ça, la peur dans les relations et une distance s'est installée entre Adam et Ève. Et malheureusement, pour beaucoup de couples, même chrétiens, les hommes et les femmes vivent dans le même lieu, sous le même toit, mais une immense distance les sépare. Et mon rôle de pasteur, c'est non pas de vous dire ce que vous devez faire, mais de vous prêcher la parole de Dieu afin que vous puissiez prendre vos responsabilités et changer votre couple pour le meilleur. Amen. Laissez-moi cela vous dire que le changement est inexorable. Tout le monde change quotidiennement. Mais le changement positif, c'est un choix personnel. Tout le monde change. Mais changer pour être meilleur, c'est un choix intentionnel, un désir réel de changer. Quand vous lisez avec moi dans Genèse 3, 7, Genèse 3, 7 nous dit « Aussitôt, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » C'est le verset dont ma femme se sert pour dire que Dieu aime les vêtements. Et que Dieu aime la mode. Puisqu'Adam et Ève se sont fait des vêtements. Cela dit, s'il fallait acheter des vêtements en feuilles de figuier, ce serait moins cher quand même. Plus simple pour tout le monde, oui, non? Non. Dieu nous préserve. Et il dit ici, écoutez bien ça, hein, tout d'un coup, après la chute, tout d'un coup après la rébellion, tout d'un coup après le péché, ils comprirent qu'ils étaient nus, et leur première façon de réagir est de dire, mince, on est nus, on va se cacher. Ils ont eu peur. Le verset 10 dit, quand Dieu parle à Adam, Adam répondit en disant, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. Dieu avait créé une parfaite unité, il avait créé un homme et une femme, l'un avec l'autre, qui pouvaient créer une unité, une harmonie parfaite pour dominer et régner. Et tout d'un coup, le péché entre dans le cœur de l'homme et de la femme. L'homme et la femme se sont non seulement divisés entre eux, mais se sont aussi éloignés de Dieu. Et la peur s'installe entre eux et Dieu, et la peur s'installe entre l'un et l'autre. Et beaucoup de couples ont du mal à se voir nus d'une façon belle, d'une façon puissante. Les hommes et les femmes dans un couple ont du mal à se voir nus. Quand cela arrive, cela me dit beaucoup de choses sur le couple, beaucoup de choses sur la femme, beaucoup de choses sur le mari. Beaucoup. Adam dit, j'ai eu peur, car je suis nu. J'ai honte de moi, j'ai peur. Je ne veux pas qu'on me voit tel que je suis, j'ai peur, je ne sais pas quoi dire, alors je me cache. Alors ce matin, j'aimerais vous voir avec vous l'un des fléaux les plus destructeurs du mariage. C'est la peur qui règne dans le mariage et qui n'est pas souvent comprise, ni appréhendée, ok ? La peur. Tout le monde dit la peur. Regarde ton voisin, dit ce matin, la peur quittera ta vie. Le diable ne veut certainement pas que tu écoutes ce message, c'est sûr. Le diable ne veut pas que les couples et les mariages écoutent ce message. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 4900 visiteurs ou 4200 visiteurs à ce jour sur le site internet ? Et que les gens écoutent le message de France, la France est le pays qui visite le plus nos messages, bien plus que la Réunion elle-même. Après, il y a les USA et l'Australie et l'Angleterre et je ne sais plus quel pays. Les hommes et les femmes écoutent et commencent à écouter ce que Dieu nous dit ici. Vous êtes privilégiés et je ne fais aucune remarque avec moi ou Steph, je parle seulement de ce que Dieu a accompli entre nous, parmi nous en ce moment. Vous êtes privilégiés qu'à la Réunion, nous prêchons des messages que la parole de Dieu enseigne. Et pas des messages vraiment de bonnes choses à dire, des choses qui vont changer notre vie et qui nous mettent, oui, c'est vrai, face à nos responsabilités. Alors je salue particulièrement ceux et celles qui nous écoutent ce matin par Internet et je veux vous remercier de votre fidélité et merci à vous tous d'être là ce matin. Première chose, écoutez bien, c'est extrêmement important. J'ai eu peur, je suis nu, donc je me suis caché. Le premier chemin qu'emprunte la peur, il y a 4 chemins qu'emprunte la peur pour détruire nos relations. Quand nous avons peur de nos fautes ou peur de nos défauts ou peur de nos péchés, nous sommes continuellement sur la défensive. Et plus nous sommes sur la défensive, ou plus nous sommes défensifs, et plus nous sommes coupables. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde pêche, tout le monde tombe, c'est un fait, c'est humain. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on ne veut pas l'admettre, c'est là qu'on tombe dans la défensive. En d'autres termes, nous savons que nous avons péché, nous savons que nous avons fait quelque chose de mal, ou dit une bêtise, mais au lieu d'avouer ses fautes, on essaye de tout arranger pour dire non, tu comprends, tu n'as pas compris, c'est pas ça, et je suis sur la défensive, et je ne veux pas que l'autre me dise que j'ai fait du mal. Je ne veux pas que l'autre me dise que j'ai un problème, je ne veux même pas m'avouer cela. Quand ta femme te dit, ce que tu as fait là était une idée stupide. Ah non, n'importe quoi, pourquoi tu te prends, tu me juges, c'est même pas vrai. Et tu sais que tu as tort, tu sais qu'elle a raison, tu sais que c'est faux. Et pourtant, tu restes sur ta position, sur ta défensive. La peur d'avoir tort, la peur d'être jugé, la peur de se sentir jugé, la peur de savoir que tu t'es trompé. Et bien, à cause de cette peur-là, tu te retires et tu te défends continuellement. Combien, ne levez pas la main, mais combien d'entre nous faisons ça souvent? On vit sur la défensive, on ne veut pas avoir tort. Il nous est avantageux de demander pardon. Il est important de dire quand j'ai tort, c'est bon, ok. Parce que si je n'ose pas partager mes torts avec mon épouse, alors avec qui pourrais-je le faire réellement? Vous savez, écoutez bien cela. Si je reste à la défensive, si quand ma femme vient me parler, je suis toujours en train de dire, voilà, elle va encore me dire des choses négatives, elle va encore me casser le moral, parce que je n'ai pas envie d'entendre ça, et je n'ai pas envie d'entendre ce que les faits, la vérité, je reste à la défensive, alors j'installe directement une distance entre elle et moi. Et tu ne peux pas marcher dans la puissance de Dieu s'il y a une distance entre toi et ta femme, ou toi et ton mari. Et vous savez, la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup des femmes, des jeunes filles qui vont toujours voir maman pour faire la cuisine ou pour faire ce que tu veux. Et Elodie m'a dit, bon chéri, tu sais, il y a aussi des jeunes hommes qui vont souvent voir maman. J'ai dit, mince, c'est vrai ça. Maman, mon chéri m'a dit à moi ça. Pour ceux qui parlent français, qui écoutent. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont encore collés comme la colle Patex à leurs parents. Décolle-toi. Deviens un homme. Sois un homme. Sois un homme. Prends tes responsabilités. Cherche la face de Dieu. Fais ce que tu as à faire. Occupe-toi de ta famille. Amen. Cela étant dit, j'aimerais te dire une chose importante. La peur s'installe dans le couple. On a peur de venir avouer nos péchés, nos défauts et nos fautes. Et j'aimerais ce matin te dire une chose extrêmement importante. Écoute bien ça. Si ton époux ou ton épouse vient vers toi et te dit, voilà, je dois t'avouer une chose. J'ai pensé à cela. Ou j'ai eu envie de cela. Ou j'ai fait cela. Ou j'ai dit cela. Quelle sera ta réaction? Si ta réaction est depuis le départ négative, violente, réactionnaire, et que tu te dis, c'est pas possible, comment peux-tu penser à cela? Et que tu te mets à juger, à réprimander ton mari ou ta femme dès l'instant où il partage son cœur, tu viens de perdre son cœur. Parce que comment peux-tu demander aux hommes et aux femmes que tu aimes de changer si tu n'es même pas capable d'ouvrir ton cœur lorsque quelqu'un vient avouer ses fautes? Combien d'entre nous avons fait ça? Quelqu'un vient te voir, il partage son péché, et c'est tellement un gros péché qu'il tombe syncope. Pas possible, tu as fait ça, mais c'est affreux, mon Dieu Seigneur, c'est affreux, t'es fini, t'es mort, désolé, t'es mort. Tu fais ça avec le gars, il va plus te dire bonjour. Il va plus vers son cœur. Si ma petite fille vient me voir en me disant, papa, tu sais, j'ai dit ça, j'ai fait ça, et que moi je dis, quoi, t'as fait ça, pas possible, bam, mais je la réprimande, je la claque, la corrige, dans son cœur, elle va se dire, une fois, pas deux, je n'irai pas revoir papa pour partager mon cœur, parce que chaque fois que je le fais, je me prends des remarques dans la tête, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pareil pour la femme, c'est pareil pour le mari. Vous savez, maintenant, on va rentrer là-dedans. Et j'ai piqué cette citation à Aline, qui était sur son mur Facebook. Elle a dit une chose très forte, enfin, elle a cité un livre. Elle a cité en disant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous permet de connaître aussi intimement les défauts cachés de votre conjoint? Pensez-vous vraiment que cela soit pour le critiquer constamment? Non, c'est pour nous agenouiller plus efficacement. Personne ne sait mieux que vous comment prier pour votre conjoint. quand Dieu te permet que ton mari ou ta femme vienne enfin partager son cœur avec toi, fais attention de ne pas le juger, de ne pas la critiquer, de ne pas la détruire ou le détruire. Sois ouvert et dis: je comprends, chérie. Waouh, tu galères là-dedans, on va t'aider. On va trouver de l'aide. On va aller voir un psychologue. On va aller voir, j'allais dire un psychopathe. On va aller voir un psychologue. On va aller voir un pasteur. On va aller voir un ami. On va t'aider. Tu souffres avec quoi? Avec la pornographie? Je vais t'aider. Mais si ton mari vient te voir en disant: chérie, je galère avec la pornographie. Quoi? Sors de ma vie, je te jette. Et bien le gars, il est fini, mon ami. Chérie, j'ai du mal, tu sais, avec telle chose, telle pensée. Et bien sois une femme de Dieu, sois un homme de Dieu. Ton mari ou ta femme a été donné par Dieu. Vous êtes une seule chair, un seul esprit, une seule âme. Si l'un d'entre vous tombe, l'autre est là pour le relever. Le premier point ce matin, c'est que lorsque quelqu'un vient te voir, ton mari ou ta femme, et c'est valable pour toutes les relations, et te partage son cœur, ses péchés, ses défauts, enlève la peur dans sa vie par l'amour que tu lui donnes. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Le premier point ce matin, c'est que tu ne peux pas amener le changement dans ton mariage, tu ne peux pas enlever la culpabilité si quand quelqu'un vient te voir, tu continues à le juger. Je t'en supplie ce matin, peuple de Dieu, mari et femme, si vous rentrez chez vous aujourd'hui et vous commencez à vous partager votre cœur avec sincérité, ne vous jugez pas l'un l'autre, aimez-vous l'un l'autre, pardonnez-vous l'un l'autre, supportez-vous l'un l'autre, restaurez-vous l'un l'autre, et votre mariage sera puissant, votre mariage sera fort. Et quand vous faites cela, sans répéter les péchés, sans, je ne supporte pas ce que Dieu a en horreur, c'est une langue qui rapporte le péché des autres. Si ton mari pêche et qu'il le partage son cœur avec toi, waouh, quelle preuve d'amour. Comment peut-on oser condamner quelqu'un qui ose faire le pas pour changer en s'ouvrant et en choisissant d'être transparent? Dieu même ne fait pas ça. Ce n'est pas son style de jeter celui ou celle qui vient lui ouvrir son cœur. Oui ou non? Quand tu viens ouvrir ton cœur à Dieu, Dieu ne te dit pas: sors de là, sale pécheur. Il dit: tu as frappé à la bonne porte, à la porte de l'amour, à la porte de la paix, à la porte de la restauration, à la porte de la grâce, à la porte de la joie, à la porte de l'énergie qui te sauve, qui te transforme, le Saint-Esprit. Tu as frappé à la porte de la bonne personne. Et bien quand quelqu'un vient te voir, si toi et moi nous confessons être chrétiens, il frappera à la bonne porte. Ça va? Mon conseil est donc de ne pas réagir de façon excessive. Ne t'évanouis pas quand quelqu'un te partage un péché. Ne dis pas: oh mon Dieu, t'as pas fait ça. Dis pas ça, c'est fini. Le gars déjà, il a du mal. Tu lui as pris 3 ans et demi pour venir s'ouvrir avec toi. Au moment où il s'ouvre avec toi, tu lui fais: trop dur, va voir ailleurs. L'Église a souvent fait cela. Regardez Adam. Dans Genèse 3:10, Adam réagit comme un homme typique. Adam est un vrai homme. Quand Dieu le confronte, il réagit comme tout homme normalement constitué. Il dit: c'est la faute de ma femme. Genèse 3:10 dit: celui-ci répondit: j'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur ta voix parce que je suis nu, je me suis caché. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12, et l'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'homme qui est pris en flagrant délit et qui n'arrive pas déjà à s'ouvrir à la base, l'homme normal, en général, il met la faute sur la femme ou sur les autres ou sur Dieu. Et quand tu es sur la défensive, quand tu n'arrives pas à comprendre et à admettre tes torts, quand tu as peur d'admettre tes défauts, tu vas toujours mettre la faute sur les autres. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'arrive pas à admettre ses torts? Il met la faute sur les autres. Dans un mois, le dimanche, on a un petit conflit dans notre couple qui maintenant n'existe plus. Pendant une saison, c'est un conflit qui était assez grave entre nous. Non, je rigole. À chaque fois que je conduisais et que j'oubliais de mettre mon clignotant, elle me reprenait sévèrement. Chérie, le clignotant, ça. Mais quand un autre gars faisait la même chose, elle disait rien. Et ça m'énervait. Je disais: pourquoi lui, tu ne joues pas? Vas-y, lui, vas-y, klaxonne, lui. Lui, fais du... Mais moi, non. Hey, j'ai tort. Je sais pas mon clignotant, c'est un tort, c'est une entorse à la règle de conduite. Et pourtant, je mets la faute sur elle, la faute sur l'autre gars, et pas sur moi. Ça vous arrive de faire ça? Non, vous non. Jamais personne ne fait ça. La femme que tu m'as donnée, tu l'as créée, je t'ai rien demandé, Seigneur. Tu l'as créée, tu la mets à mes côtés, tu l'amènes, et puis tout d'un coup, elle me donne un fruit. Moi, je mange tranquillement, je savais pas, j'ai mangé, et c'est moi qui ai tort encore. J'aime les couples lorsqu'ils se battent. Tu vois les gars se déchirer. Je regarde, j'essaie de leur faire comprendre. Mais qui c'est qui vous a choisi? On vous a obligé d'être ensemble? Non. Eh bien alors, qui s'est marié avec elle? Qui a choisi elle? Toi ou lui? Ben c'est moi qui ai choisi. Eh ben voilà. Et maintenant tu travailles avec. Ah bon, les comment alors? Ben oui. C'est comme ça. Ah mais je comprends pas. Tu sais, à une époque, j'étais influencé par Rich Forrester. Rich Forrester, le gars de Amour, Gloire et par après. Écoute bien ça ce matin, premier point. N'aie pas peur d'avouer tes fautes. Pour que cela fonctionne, il faut que le conjoint ou la conjointe crée l'atmosphère d'amour pour que la personne n'ait plus peur d'avouer ses fautes. Ça vous va? Parce que si quelqu'un... Moi, je n'ai pas peur d'avouer mes fautes avec Elodie. Au départ, non. Maintenant, oui, maintenant, je peux très facilement lui dire, chérie, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ça me gave, je m'en veux. Le premier point, c'est de dire, je dois avouer que j'en ai marre de ma situation. Qui en a marre? Ne lève pas la main. Mais qui en a marre de sa situation? Qui en a marre de se voir pareil depuis des années? Le mariage stagne, le mari stagne, la femme stagne, le chien stagne, tout stagne. T'en as marre? Eh bien, si t'en as marre, c'est un bon signe. Prends-toi en main, c'est ton destin. Prends-toi en main et commence à dire, ok, c'est bon. Voici ma liste de torts. J'ai ça, ça, ça a changé. Et quand quelqu'un te reprend, ne dis pas n'importe quoi, dis c'est vrai, tu sais quoi, j'avoue. Je travaille là-dessus en ce moment, c'est un de mes gros défauts, je galère avec ça, tout le temps je suis en train d'exagérer, ou jamais je dis la vérité, ou j'ai peur de cela, ou bref, et tu avoues tes torts à haute voix, et tu y vas, et tu t'en fiches que les autres pensent, parce que tu veux absolument changer. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Dans un couple qui veut changer, avouez vos fautes et vos torts et vos problèmes. Pour qu'un réel progrès se fasse dans ton mariage, il faut le courage de dire les choses et il faut le courage d'entendre les choses. Et en tant que chrétien, vous et moi, nous ne devrions même pas avoir de problème dans nos mariages puisque nous marchons dans l'amour. Il est intolérable que l'Église de Christ connaisse des problèmes de mariage puisque nous avons le modèle divin. Et quand quelqu'un pêche, vous et moi, nous devrions tout faire pour le relever. Quand quelqu'un choisit délibérément de pécher, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que de prier. Quand quelqu'un vient nous voir en disant « J'ai péché, j'ai fait une erreur, je m'excuse. » J'ai honte de mon problème, mais je ne veux pas l'admettre. Si, frère et sœur, si demain que Dieu nous préserve, si demain je devais avoir une tumeur, je ne pourrais pas dire « Bon, la tumeur est là, avec le temps, elle s'en ira. » Vous faites ça? Vous ferez ça ou pas? Non, tu as une tumeur dans ton corps, tu vas directement à l'hosto ou voir Steph pour prier, tu veux un miracle. Tu veux enlever la tumeur, oui ou non? Ben, dans le mariage, c'est pareil. S'il y a une tumeur, s'il y a un problème, s'il y a un défaut, s'il y a un péché, s'il y a un souci, il faut tout de suite y faire face, prendre courage, s'aimer, se serrer les coudes et le vaincre ensemble. Premier point ce matin, n'aie pas peur d'avouer tes fautes, sinon cela détruira ton mariage. Deuxième chose ce matin. Quand nous avons peur de nos sentiments. Alors là, je vais essayer d'être clair parce que c'est un peu plus psychologique, je dirais. Première chose, tu pêches, tu as des torts, tu as des défauts, facile d'avouer parce que tout le monde le voit. D'accord? Joss Meyer a dit un truc fort, elle a dit, le problème avec l'orgueil, c'est que tu as trop d'orgueil pour te l'avouer. Tape ça. Hein? Quand tu as un défaut, tu as du mal à l'avouer. Mais quand tu as, écoute bien ça ce matin, des sentiments, je vais essayer de creuser avec vous pour savoir comment faire pour ramener un couple en bonne santé. Des sentiments. Est-ce que tu as peur de dire tes sentiments avec ton mari ou ta femme? Vraiment, je parle de tes sentiments, pas une opinion, pas tes sentiments. Par exemple, vous savez, en général, les hommes ont peur ou se retirent, se déconnectent lorsque l'atmosphère émotionnelle est trop chargée. Et dans un couple, en général, la femme charge l'atmosphère émotionnelle. Elle pleure. Elle est contente, elle n'est pas contente. Le matin, elle aime sa robe, le soir, elle n'aime plus sa robe. Elle veut que tu lui parles, que tu l'écoutes. Tu viens l'écouter, elle dit, tu m'écoutes pas. Si chérie, je t'écoute. Non, tu m'écoutes pas. Tu peux pas comprendre. Et tu essaies de comprendre quand même, mais tu peux pas comprendre. Parce qu'elle non plus, elle ne comprend pas, ça se trouve. D'accord? On est cuit. Donc. Mais dans l'atmosphère, non mais ce n'est pas une critique, mais c'est la femme est ainsi faite, elle charge, une femme charge l'atmosphère d'émotions. Vous regardez un film avec des femmes. Il faut tous les mouchoirs et la plupart des femmes choisiront des films dans lesquels tout le peu de gars meurt. Elles choisiront des films où Au début, c'est une belle histoire d'amour, ils sont contents. Et tu sais, toi, tu sais que un des gars va mourir, c'est obligé, c'est le but du film. Et là, je t'aime, elle meurt. Et la femme est là. Et moi, je comprends pas, ma chérie, elle adore ça. Je comprends pas comment on peut se détendre devant un film qui fait pleurer. Mais bon, ça, c'est les femmes. Oui ou non? Là, elle charge l'atmosphère de l'émotion. En général, nous les hommes, on n'aime pas trop beaucoup ça. En général, je ne sais pas pour vous, mais regardez Meurs un autre jour, je ne sais pas quoi, Mort sur un pont. Est-ce qu'on voit le film que tu adores là? La fille meurt d'un cancer et est amoureux du gars. Le temps d'un automne. Le temps d'un automne. Le film est passé 54 000 fois à la maison. Parce que j'ai une femme et deux filles. Les gars, je vous dis franchement, je sais ce que signifie l'atmosphère chargée en émotions. Le fait est que je n'aime pas forcément ce film-là. Les gars, eux, ils aiment bien. Écoutez bien la différence entre hommes et femmes. Les gars, ils aiment bien. Ou par exemple, les films, les gars, les films les plus vus, qu'on le veuille ou non, à ma grande honte, j'ai vu les Rocky au moins 14 fois. J'ai vu Rambo 5-6 fois. James Bond un paquet de fois. Hein? Quoi? J'ai pas honte, d'accord. C'est tellement plus, j'ai pas honte. Eh bien, la plupart des hommes, on aime bien voir les films. Écoutez bien ça. Comment on est affreux par rapport aux femmes. Le gars a une mitraillette. Il est en train de flinguer le gars. On lui dit, ouais, le gars est forcément. Elle, la femme, elle dirait, mais il est en train de mourir. Il perd tout son sang. Ça doit faire mal, ce moment. Mais non, comment il fait. Chérie, c'est de la guerre. T'inquiète pas, ils sont en guerre. C'est bon, là. Vas-y, tue-le. C'est la différence. Nous, on est déconnectés des émotions en général. On n'est pas trop l'air avec ça. Pour la plupart des gars, sauf la plupart des prophètes que je connais, ils sont extrêmement sensibles aux émotions. Ça, c'est autre chose. Mais en général, l'homme, il n'est pas trop l'air avec la femme qui va voir son film qui pleure. Lui, il veut voir Jackie Chan. Le retour, et après Rambo, le détour. Ok, c'est comme ça. Le fait est que, j'essaie de vous expliquer que, quand tu comprends ça, il est normal que dans, écoutez bien ça, hein, que dans le mariage, vous ayez peur. Mince, le temps. Vous ayez peur de partager vos sentiments. Exemple, la femme, elle sait très bien que son mari n'a pas envie d'écouter ses pleurnicheries. Elle se dit, mon mari n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à dire. Et elle va tout faire pour presser le bouton du style, j'ai besoin que tu m'écoutes. Et si elle n'a pas cette attention-là, elle va en trouver ailleurs. Une femme qui ne reçoit pas l'attention émotionnelle de son mari, va devoir faire tout ce qu'elle pourra pour le repenser, le remplacer, je parle de l'émotion, parce que c'est en elle. Il y a des femmes qui arrivent à remplacer le manque affectif par les magasins ou la cuisine ou la cour, d'autres n'arrivent pas à le faire et feront dans le péché. Le fait est que ce matin, lorsque le mari et la femme se comprennent comme ça, ils disent « Attends, ma femme a besoin de moments affectifs, que je parle avec elle, que je l'écoute, que je la comprenne. » En même temps, la femme doit comprendre que le mari, c'est pas son style, il n'a pas trop envie de parler pendant des heures. « Comment était ta journée ?»« Bien. » »« Chérie, comment était ta journée ?»« Bah, bien, j'ai vu le patron et on a fait... » Voilà quoi. « Quoi ? Tout ça, que t'as fait ça dans la journée, une seule chose ? T'as vu ton patron dans la journée et après, t'as vu qui ? À qui t'as parlé ? Et, parce qu'elle veut comprendre à qui t'as parlé, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as parlé ? » T'as dit bonjour, c'est comme ça. Le mari dit, chérie, ben, j'ai vu Joseph, André, Patrick, c'est bon quoi, ils vont bien. Et leur femme? Je sais pas. Quoi? C'est pas comment vont leurs femmes? Parce qu'elles veulent avoir l'atmosphère émotionnelle. Le problème quand c'est comme ça, c'est que lorsqu'on est dans un couple, cette psychologie-là différente affecte le partage des émotions. La femme se dit, mon mari est insensible à mes émotions. Et le mari va dire, ma femme est trop sensible à mes émotions. Donc je ne vais pas trop lui dire, parce que si je lui dis, elle va en faire une montagne. Et elle me dit, il ne me dit rien. J'aimerais qu'il me parle. J'aimerais qu'il me dise ce qu'il ressent. Bon, une femme m'a dit un jour, les seules fois où mon mari me parle, c'est quand il veut manger ou veut la télécommande de la télévision ou du sexe. Oups. Pas de réaction. Le niveau le plus profond de communication, c'est lorsque vraiment tu peux parler de ce que tu ressens au plus profond de toi. Et mon ami, le problème, c'est que les maris et femmes sont tellement différents qu'ils connaissent ça. Il nous faut du temps pour travailler là-dessus. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec votre épouse, votre époux, et dire, bon, chérie, ok, voilà, ok, on va mettre les points sur les i maintenant, on va essayer de se comprendre un peu mieux. Qu'est-ce que tu ressens? Et attends qu'elle te parle, et vice-versa. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et laisse le temps au gars pour trouver les mots. Il n'a pas le même dictionnaire qu'une femme. la femme a un dictionnaire de 95 000 pages pour décrire ses émotions, l'homme a une page. D'accord ? C'est comme ça. Mais comment faire pour améliorer cela ? Vous savez, le problème, c'est que le mari, en général, écoutez bien ça, le mari, en général, il a honte, il a peur de s'ouvrir. Il se dit, je ne peux pas m'ouvrir parce que ma femme va me voir pour un faible. Et le plus important ce matin, c'est que tu passes au-dessus de cela et que tu arrives à te dire, j'ai besoin de dire la vérité dans mes sentiments. Quand vous lisez le psaume 51, rapidement, David dit, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Il dit, s'il te plaît, je suis pas en forme, je suis pas bien, j'ai péché, j'ai galéré. Et quand tu arrives à dire, attends, je sais qu'elle est différente de moi, on met de côté pour l'instant le côté trop émotionnel, on va dire la vérité, on va dire ce qu'on ressent réellement, on va balancer les émotions. Tu sais, comme par exemple, tu dis, chérie, je sais pas comment te le dire, mais par exemple, j'aimerais plus qu'on parle de ça en ce moment, ou ce qui m'inquiète vraiment, chérie, c'est ça. Et sans que l'un et l'autre se vexent en réellement travaillant là-dessus, vous allez avoir une énorme différence dans votre couple si vous arrivez à faire passer vos émotions, vos sentiments réels, profonds, d'une façon pure et sainte. Amen. Et c'est important parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne partagez pas ce genre de choses-là, vous ne serez jamais guéri et vous ne pourrez pas faire la différence. Et il y aura ce fameux masque du public. Vous savez, devant tout le monde, on dit « Amen, tout va bien, je suis en forme, tout est cool. » Et chez nous, on est meurtri, blessé, dépressif, encouragé, découragé, je veux dire noir. On ne sait pas quoi faire. Alors qu'une discussion avec l'époux ou l'épouse ou un meilleur ami, si vous n'êtes pas encore marié, aide vraiment à sortir cela et être vrai envers les autres. Par exemple, chérie, je galère en ce moment. J'ai pas le moral. Je n'arrive pas à mettre un mot dessus. Prie pour moi, aide-moi. Allons chercher ensemble des idées. Dans notre culture, l'homme a du mal à s'exprimer. La femme, elle, est parfois, c'est plus simple pour elle. En général, les hommes n'aiment pas pleurer. En général, ils n'aiment pas pleurer parce qu'ils se disent que c'est une marque de faiblesse. Si je pleure après, ma femme, je ne suis pas un homme. En général, on ne pleure pas devant les gars, on fait le fort. Mais la réalité, c'est que nous devons apprendre à être vulnérables. Combien d'hommes ce matin, vous êtes réellement vulnérables devant votre femme? Ne levez pas la main. Mais je vous dis, vous êtes vraiment vulnérables, vraiment ouverts devant elle. Je veux dire pourquoi. Un manque de vulnérabilité détruit l'intimité. Parce que la femme, elle, quand l'homme se dit, si je m'ouvre, elle va me rabaisser, j'aurai honte devant elle, je ne vais rien dire. La femme, elle se dit, s'il s'ouvre, je vais connaître le vrai lui et j'aurai plus tendance à aimer le vrai lui qu'un lui qui est faux. Tout le monde comprend ou pas? C'est bon ou pas? C'est clair ou pas les femmes? Aidez-moi un petit peu là. Beaucoup de femmes aspirent à ce que leur homme, leur mari s'ouvre réellement avec lui, avec elle. Chérie, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Vous savez, les blessures non partagées, non résolues, ne font qu'amplifier la distance. Et ce matin, Dieu veut te dire, si tu continues à craindre l'intimité en tant qu'homme, si tu ne veux pas t'ouvrir, tu ne pourras jamais créer une intimité forte. Marie, ce matin, je vous en supplie, faites un effort, prenez du temps de qualité pour vous ouvrir avec votre épouse et dire les choses telles que vous le ressentez, même si vous vous trompez. Dieu manque que vous êtes vrai, Dieu manque que je suis vrai. Elodie doit m'aimer pour ce que je suis. Elle cherche le vrai Bruno et non pas le faux Brian. D'accord? Donc, et aussi, jeune marié, un petit conseil en passant, rapidement. Pour les jeunes mariés, qui est jeune marié aujourd'hui dans ce lieu? Moins de 2 ans de mariage, moins de 2 ans. Ok, un petit paquet, un tas, d'accord. Écoutez bien cela. Tous les mariages, et je pense que les gens qui sont mariés depuis 10 ans ou 20 ans vont me dire, tous les mariages expérimentent ce qu'on appelle des bonnes journées et des mauvaises journées. Et vous avez vécu ça? Un matin, tu te lèves, ton mari t'énerve. Tout ce qu'il n'a pas encore fait t'énerve déjà. Vous avez vécu ça? Tu te lèves le matin, il te dit bonjour. Il t'énerve, il t'agace. Il te caresse la nuque, il t'agace. Il fait le café, c'est pas bon. Il dit bonjour, ouh, dit bonjour comme ça, ou là, t'es pas bon. C'est une mauvaise journée. Ça arrive. Ne parle pas de divorce. Ne dis pas, je vais voir ailleurs. Ça arrive. C'est pareil, parfois, le mari, lui, n'a pas envie de voir sa femme. Ça arrive que les maris, normalement constitués, ont envie de passer une journée, voire deux, quelque part, faire du karting, de la pêche, je ne sais pas. Et là, la femme se sent mal. Tu m'aimes pas alors, tu m'aimes plus. Tu fais des copains. C'est pas ça, chérie, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir. Mais ça, on ne le dit pas. Non, chérie, c'est pas ça. J'ai promis à mon copain. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. C'est juste ça. Mais en fin de compte, avec les copains, j'ai besoin d'un break. J'ai besoin d'un break tout de suite demain. Il me faut un break. Mais on n'ose pas dire ça. Il y a des jours où tu n'apprécies pas ton époux. Merci pour votre franchise extraordinaire. Il y a des jours où il t'agace, où il t'énerve. Combien ce matin peuvent dire avec moi, c'est vrai, cela m'est déjà arrivé. Ah bon, chérie? Mais cela n'est que temporaire. Donc, le but, c'est quoi? Écoute bien ça. Si tu n'es pas capable de dire à ta femme, chérie, tu sais, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas vraiment envie de te voir. J'ai besoin de voir mes copains. Besoin de sortir, besoin d'une moto, j'ai besoin de sauter en parachute, j'ai besoin de faire du surf. Tu me donnes un break aujourd'hui? Si la femme est mature dans l'amour, elle va dire, oui, chérie, amuse-toi bien, on se voit ce soir. Si elle est immature, elle va dire, ah bon, et bien si tu fais ça, et bien voilà. Si elle fait ça, le gars fait, ah bon, et bien la prochaine fois, là, la prochaine fois, pour aussi alors, voilà. Distance. On n'est pas libre de parler de nos émotions, nos sentiments, on n'est pas vrai. Aujourd'hui, t'as pas trop envie, ça arrive, c'est cool. Tous les jours, c'est molle. Non, tous les jours, c'est molle. Je ne dis pas tous les jours, je dis de temps en temps. Une fois, tous les ans. Troisième chose rapidement, là c'est un gros point. Un autre sentiment qui fait peur au monde, aux hommes et aux femmes, c'est le sentiment sexuel. S'il y a des enfants dans la salle, ramenez-les rapidement voir les schtroumpfs, s'il vous plaît. Genèse 3:7 nous dit, on l'a lu tout à l'heure je crois, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Si vous comparez avec Genèse 2:25 qui dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Donc après la chute, ils ont eu honte, ils étaient distants, ils n'arrivaient pas à se voir tels qu'ils étaient, ils avaient honte de leur corps. Et c'est très triste parce que la première distance s'expérimente dans la chambre. S'il y a une distance dans les rapports sexuels d'intimité, cela est une preuve qu'il y a une distance dans les émotions, dans l'amitié, dans tout le reste. Je me défie. Vous ne pouvez pas me dire, ça va très bien, mais on n'a aucun rapport sexuel. Parce que le sexe, c'est la manifestation que tout est super canon. Le sexe, c'est le fruit de l'alliance. Comme ils sont en alliance, ils célèbrent leur union. Et la preuve de leur union, c'est les rapports sexuels. Les deux deviennent une seule chair. Ça, je sens la température monter. Mettez la clim, s'il vous plaît. Les maris, quand ils disent, oui, voilà, oui, vas-y, pasteur, prêche, prêche. Et la femme, elle dit, Seigneur Jésus, ça va être un long quart d'heure. Mais nous avons peur d'en parler. Écoutez bien ça, une enquête réalisée aux USA, là le reste est pire alors, prouve que 80% des couples qui sont insatisfaits ou frustrés dans leur relation physique sont frustrés pour une raison simple. Écoutez ça, ils ont du mal à en parler. Parler de leurs problèmes, mais aussi parler de leurs problèmes sexuels. Rares sont les couples qui vraiment ont pris le temps d'explorer la sexualité de l'un et de l'autre avant de passer à l'acte ou en passant à l'acte. Ouh là là. La plupart des couples que je connais, le dis moi, ils ne parlent jamais des détails. Qu'est-ce qui plaît à ta femme? Ah, ce qui ne lui plaît pas, tu sais. Ça, en général, elle te l'a dit. Mais ce qui lui plaît vraiment, tu n'es pas... Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas beaucoup, à part ceux qui ont l'expérience maintenant, mais la plupart des hommes, surtout les jeunes marmailles, ne savent pas. Ils font leurs affaires, c'est fini, c'est fait, ils sont contents, eux. Ils ne sont pas rendus compte que dans le rapport sexuel, il y a une multitude de détails. Je ne veux pas trop m'ouvrir avec ma femme et moi, parce que bon, c'est quand même notre intimité, mais c'est chaud, parce qu'il faut que je donne quelques leçons. Mais par expérience, ma petite expérience de mari, je me suis rendu compte que ce n'est jamais pareil. Jamais. Parce qu'il y a des moments où le haut est plus sensible, des moments où le bas est plus sensible. Non mais, c'est la vie, les gars. C'est fou comme... La chose la plus belle que Dieu ait créée, on s'est tellement gêné d'en parler. Ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ça me va, je suis tranquille, cool. Hein. Le fait est que j'aimerais, en tant que pasteur, vous amener une dimension différente. Ce sont dans les détails, que vous faites progresser votre relation. Surtout au niveau du sexe. Si vous n'êtes pas capable de vous asseoir et d'en parler librement, et de voir ce qu'il plaît à ta femme, ce qui ne lui déplaît. Si ta femme n'est pas libre de dire, chérie, tu sais, moi, ce que j'aurais aimé qu'on fasse, c'est plus comme ça et moins comme ci. Il y a des gens qui pètent des câbles. Le mari refuse catégoriquement d'utiliser, par exemple, un préservatif parce qu'il n'aime pas ça. Ça se trouve, la femme, elle s'en sentirait mieux après. Eh ben non, je refuse, je veux pas. Et le gars ne se rend pas compte qu'il est en train de fragiliser sa relation et qu'il peut peut-être passer à côté de grands moments de septième ciel à cause de ça. Ça touche des cordes, là. Bon, le problème, c'est que ça reflète un égocentrisme. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour l'autre. Et la peur de s'ouvrir. Je me demande combien de femmes, chérie, aujourd'hui, sont capables de dire à leur mari, chérie, tu sais, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'aimerais. Ne levez pas la main, mais combien d'entre vous avez déjà partagé réellement, dans une pureté, je parle d'une pureté là, ok, des fantasmes avec l'un et l'autre, mari et femme, je parle, pas copain-copine. Mari et femme. Chérie, voilà mon fantasme. Quand j'ai un de mes fantasmes, elle rigole, elle fait, ben mon noir, un travail pour faire. Elle ne parle pas créole, elle fait, eh ben dis donc. Mais moi, je suis libre de parler avec elle. Tu vois, je me suis rendu compte, je me défie. Lequel d'entre vous, Marie, levez votre main si c'est vous. Lequel d'entre vous, Marie, vous êtes capable de lire les pensées de votre femme avec exactitude chaque seconde? D'accord, je me sens moins seul. C'est impossible. Le fait d'en parler, le fait qu'elle puisse être libre de s'exprimer, dire chérie, tu vois, ce que je ressens, au niveau du sexe est extrêmement important. Certains font l'amour 3 fois par mois, d'accord, mal d'accord, pour eux c'est bien. D'autres c'est 2 fois par semaine, d'autres 3 fois par jour, et d'autres c'est toutes les heures, c'est pas grave. L'idée c'est quoi? Avez-vous communiqué l'un avec l'autre pour que ces rapports sexuels soient la manifestation d'une entente, une unité, une communion extraordinaire? Ou avez-vous des rapports sexuels parce qu'il faut le faire, parce que c'est un instinct animal qui reste en nous? Non. Ton monsieur ou pas? Être capable de s'asseoir, de dire, tu sais chérie, tu vois, moi j'aime bien ce style-là, j'aime bien comme ça, j'aime bien ici. Ah ok, bon, on va discuter, on va voir ce qui se passe. Et tu grandis comme ça, et tu casses les tabous, et tu enlèves la distance, et tu es capable de dire que c'est ma femme, c'est ma seule, l'unique. Et c'est pour ça que bien souvent les mariages cassent. L'une des raisons, c'est que, et Marc, parce que Marc me disait souvent ça, il me disait que les prostituées, malheureusement, les prostituées passent leur journée entière à améliorer leur talent pour plaire à un autre homme. Et les femmes de chrétiens ne font aucun effort, presque, pour vraiment améliorer leur rapport sexuel avec leur mari. Un jour, Pasteur Marc m'a dit une chose très très forte. Il m'a dit, un homme qui est satisfait à la maison n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une grande vérité. Personnellement, moi aujourd'hui, depuis des mois maintenant, j'ai eu très très peu de mauvaises pensées sexuelles parce que ma femme me gâte. Mais non, je suis vraiment intime, chérie, excuse-moi ma puce. Si tu veux... On parlera plus tard. Non, j'ai prévenu que ça allait être un peu différent. J'ai pas le choix de parler comme ça. Je m'ouvre à vous. Mon épouse et moi, on s'ouvre à vous ce matin. Par vérité. Pour vous dire que si on ne travaille pas là-dessus, réellement, Paul dit, ne vous privez pas loin de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière pour un peu de temps, de peur que l'ennemi vienne vous tenter. L'homme, tout le monde dit l'homme. L'homme est tenté par ce qu'il voit. Tu allumes la télévision, t'es cuit. La femme est tentée par ce qu'elle entend. Un homme romantique lui parle de la bonne façon, avec le bon ton, elle fait ah, ça, c'est un homme. Le gars, lui, il marche en pleine rue, il pense à son boulot, il pense à Jésus-Christ, il pense au Saint-Esprit, bap, il voit une femme, il pense à la femme. Oh, il repense à l'esprit, il repense à la parole de Dieu, il repense à l'église, il repense à Steve, il repense à Cédric, oh, il pense à la femme. Et les gars, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que ce matin, vous écoutez ce que je suis en train de dire. Vous m'entendez ce que je dis ou pas? Un homme normalement constitué, lorsqu'il voit une femme, ses deux canettes doivent être conduites par Dieu, parce que sinon, le canette reste figé là-dessus. Un jour, un homme m'a dit, moi, c'est décidé maintenant, je ne regarde plus jamais la deuxième fois. Mais le premier regard dure une heure. C'est comme cette histoire d'un homme qui rentre chez lui le soir. Il est fatigué, il a besoin d'être de sa femme. Alors il prépare 2 aspirines, il prend son aspirine et puis il donne à sa femme. Sa femme dit, c'est pourquoi ça? Et lui il dit, c'est pour ta migraine. La femme dit, j'ai pas de migraine. Le mari a dit, ah c'est cool, sors, pas d'excuse, je t'ai eu. Vous en faites ça les gars, essayez ça, vous allez voir.
Qu'est-ce qui demande plus de courage? Cacher la vérité ou dire la vérité? J'espère qu'il n'y a pas d'enfant ici aujourd'hui, mais c'est important. Il a été prouvé que beaucoup de femmes ne font pas l'expérience de l'orgasme. Beaucoup de femmes n'ont pas vécu ça. Et c'est une tristesse extraordinaire. Élodie, moi, pour nous, ça nous fend le cœur. Je vous encourage, si ce n'est pas le cas, vous devez en parler avec Élodie, si vous le souhaitez. Mais après, votre mari, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça en est, comment on peut faire pour vous aider. Là, on parle de choses réelles, frères et sœurs. On ne peut pas juste dire, ouais, Dieu est bon, amen, si notre vie ne change pas. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui ou non? Quatrièmement, je termine là-dessus, presque. Quand nous avons peur de perdre le contrôle du couple, le contrôle de la relation, nous devenons exigeants, voire dominateurs. Vous savez, lorsque deux personnes qui vivent dans l'insécurité, ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Quand il y a deux jeunes qui ne savent pas qui ils sont, c'est très dangereux pour eux. Il faut beaucoup de coaching, il faut beaucoup les aider. Parce que lorsque tu ne sais pas qui tu es, ou ta femme ne sait pas qui elle est, son insécurité ou ton insécurité va faire que tu vas devoir vouloir contrôler. La magie blanche va être en place. Tu vas vouloir dominer. Quand vous lisez Genèse 3, verset 16, la Bible dit que Dieu dit « Je rendrai à la femme tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » C'est-à-dire que la vie veut qu'après la chute, au lieu que les hommes et les femmes dominent sur les animaux, l'homme a dû dominer sur la femme. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu à l'origine, mais c'est comme ça. Et le problème, c'est lorsque nous ne sommes pas dans l'amour, et quand nous ne connaissons pas Éphésiens 5, 21 qui dit « Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Dans le mariage, il y a un besoin extrêmement important de pouvoir se soumettre l'un à l'autre pour ne pas tomber dans le piège de vouloir dominer, contrôler. Et ça, c'est un fléau pour les couples. Et vous savez, j'ai mis une phrase qui est forte pour moi. Cesse de mettre l'accent sur tes droits et mets l'accent sur tes responsabilités si tu veux construire un mariage qui dure. Tu ne peux pas toujours dire, mais j'ai besoin, ce sont mes besoins, je désire, je veux, c'est pour moi, je suis ta femme, ça, c'est ma maison, moi, ma main. Et l'autre dit, non, tu es ma femme, fais ce que je dis, c'est moi le leader, c'est moi le chef, je dirige, c'est pour moi, mes droits. Si tu t'accroches à tes droits, tu détruis le couple. Par contre, si tu t'accroches à tes responsabilités, tu construis le couple. Que dois-je faire pour ma femme? Quel genre de mari je dois être? Quel genre d'homme de Dieu je dois devenir? Quel genre de père je dois être? Comment puis-je parler à ma femme pour la construire? Comment puis-je l'influencer? Comment puis-je l'aider? Comment puis-je l'encourager? Et mes responsabilités de mari vont la construire. Et elle, pareil, que dois-je faire pour mon mari? Que dois-je faire pour ma femme? Comment faire pour l'aider? Mon mari a besoin de moi ici. Il faut que je fasse ça, je sois présente. Et elle se focalise sur ses responsabilités. Les deux grandissent. Mais si un des deux se focalise que sur ses droits, j'ai besoin, ce sont mes droits, je suis ta femme, nanana, on tourne en rond, c'est égoïste, égocentrique et immature, on détruit le couple. Il y a des couples qui ont 20 ans de mariage et les deux sont toujours aussi immatures qu'avant parce que les deux se focalisent sur les droits. Mauvaise nouvelle, tu ne pourras jamais être satisfait ou satisfaite si tu te focalises sur tes droits. Par contre, tu seras pleinement accompli si tu te focalises sur tes responsabilités. Amen. Cela signifie quoi en clair? C'est très simple. Cela implique que ce n'est pas mon dernier mot qui compte. C'est la qualité de ma relation. Quand tu regardes ton mariage, regarde si tu veux avoir raison. Regarde si tu as raison, ah, c'est bon, c'est moi, j'ai raison. Ou est-ce que ton mariage en pâtit? C'est super d'avoir raison, mais si ton mariage est en train de sombrer, ça ne sert à rien. Avoir raison n'est pas aussi important que la qualité de tes relations. La qualité d'une relation passe avant la volonté d'avoir raison. Je n'ai pas raison, c'est pas grave, mais ma relation est préservée. Écoute bien cela, c'est pas fini, j'ai presque fini. Quand une personne commence à vouloir contrôler l'autre de façon volontaire ou involontaire, subtile ou pas, l'autre se sent piégé et veut s'enfuir. Combien de fois, malheureusement, j'ai vu des couples être brisés parce que la femme ou le mari ou le petit copain ou la petite copine voulait tellement contrôler son mari que le mari en a eu marre, il ne voulait plus, dans un premier temps, venir à la maison. La maison l'étouffe, il se sent étouffé à la maison. La femme le poursuit, la femme l'espionne, elle n'a aucune confiance en lui, elle fait tout ce qu'elle peut pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas confiance en lui, le gars n'a pas envie. Il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui passent plus de temps à l'église parce qu'ils ne veulent pas être à la maison. D'autres font du surf, d'autres restent au bureau, d'autres s'inventent du travail pour rester au bureau. Il y a un jour, un gars, un ami à moi, il est venu me voir, il m'a dit, je suis triste parce que je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Je dis, mais pourquoi? Parce que quand je rentre chez moi, c'est toujours les reproches, toujours les reproches, toujours les reproches. Et c'est vrai, je fais des erreurs, mais j'ai même plus envie d'essayer, ça me gave. Et le gars donc reste dehors. Et le fait de ne pas se sentir l'un soumis à l'autre et ouvert l'un à l'autre, et ne pas se sentir dominé, ça, en tout cas se sentir dominé, eh ben ça fait fuir les gens. J'écris ici, quand une personne commence à se sentir dominée ou contrôlée, elle se sent piégée, elle ne veut faire qu'une seule chose, fuir. Ne commets pas l'erreur d'utiliser la honte ou la condamnation ou le contrôle de l'argent ou celui du sexe ou la menace du divorce pour obtenir ce que tu veux dans une relation, c'est de la magie blanche. Forcer quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, c'est de la magie blanche. Et le mariage dans l'église doit cesser ces choses-là, elles ne sont pas de Dieu. Tu dois inspirer l'autre à faire les choses. Tu dois motiver l'autre à faire les choses. Et s'il ne veut pas le faire, tu dois prier pour lui. Et commencer à avoir des bons amis, des bonnes relations pour construire le couple. Tu dois faire face à la vérité, dire les choses, mais cesse de manipuler l'autre en disant, eh ben, si tu n'as pas ça, pas de sexe. Ou si tu n'as pas d'argent, on ne fera pas ça. Non, pas de menace. Dans une relation, il ne devrait pas avoir de menace. La menace est pour les faibles. Ce matin, Dieu vous dit, frères et sœurs, allons nous repentir. Laisse Dieu changer les cœurs. Toi, attache-toi à ta propre vie. Travaille sérieusement sur ton propre cœur et tu verras les choses changer. Amen. L'esprit de contrôle repousse celui que tu aimes. L'esprit de contrôle repousse celui ou celle que tu aimes. Ramène ça à toutes tes relations. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est ne sois pas coupable. Si tu fais ces choses-là, arrête aujourd'hui, stop, arrête-toi, dis bon, j'arrête, c'est bon, j'ai compris la leçon ce matin, c'est bon, c'est la parole de Dieu, je m'arrête, je vais bénir les autres. Et finalement, vous lirez chez vous en groupe de maison, deux choses pour changer cela. Premièrement, sois honnête avec toi-même, avoue tes fautes. Deuxièmement, sois honnête toujours avec ton épouse. Ne tombe pas dans le piège de lui cacher les choses. Et je finis là-dessus, c'est important pour moi, frères et sœurs. Si vous avez fait des choses il y a 20 ans en arrière, ce n'est pas ce que je dis. Pas la peine de ramener ce que vous avez fait il y a 20 ans en arrière, ce n'est pas important. Je vous parle de ce que vous faites aujourd'hui. Le passé ne va rien changer. Mais ce que tu fais aujourd'hui est important. Décide aujourd'hui de marcher dans la crainte de Dieu, de t'ouvrir à ton mari, de ne pas avoir peur de tes sentiments, pas avoir peur de tes défauts, pas avoir peur de tes péchés, pas avoir peur de t'ouvrir, ne domine pas sur les autres, n'aie pas peur de perdre le contrôle, au contraire, laisse les choses entre les mains de Dieu, donne-toi à ton mari, donne-toi à ta femme, n'aie pas peur de parler de sexe avec ton mari, devenez amant dans le sens romantique du terme, devenez amoureux, parlez l'un avec l'autre, et si vous faites cela, vous n'aurez pas besoin de 40 ans de conseils spirituels avec le pasteur, si vous faites cela, votre couple changera au fur et à mesure. Maintenant, vous me direz, oui, mon mari n'est pas chrétien. Je comprends, c'est difficile, mais pourtant, Pierre dit, par ta conduite, tu pourras gagner ton mari. Donc, Dieu n'est pas confus. Dieu nous donne toutes les armes spirituelles. Il nous donne le fruit de l'esprit pour construire une famille bénie. Alors, ce matin, je sais, c'était assez violent dans l'esprit. Je comprends. Dans les cœurs des gens, maintenant même, je sens que ça remue. C'est normal. Quand vous lirez les notes chez vous, vous prierez ensemble, j'espère. Vous allez prendre le temps avec votre épouse ce soir ou demain ou dans la semaine de vous asseoir. Si demain ta femme n'a pas envie de te voir, c'est peut-être une de ces journées. Laisse-la tranquille. Quand je sens qu'elle le dit, pas envie de me voir, je dis chérie, tu veux sortir, tu veux voir tes copines, tu veux faire les magasins, tu veux faire un brushing, vas-y, fais un truc, vas-y, détends-toi. Parce qu'au départ, j'essayais de la contrôler en disant non, tu vas rester avec moi, t'es ma femme, tu m'aimes pas alors. Et c'est totalement immature et j'ai failli tuer notre couple. Et elle, plus elle me voyait réagir comme ça, moins elle avait envie d'être avec moi. Moins elle avait envie d'être avec moi, plus j'avais envie de la forcer d'être avec moi. Imagine les affaires. C'est comme mon chien qui essaie de se mordre la queue qui tourne en rond comme ça. Donc ce matin, en tant que pasteur, je vous déclare haut et fort que moi, en ce moment, avec Elodie et Steve et l'équipe, on ne joue plus. On veut vous voir transformés. Et pour être transformé. Il faut se connecter à Dieu et il faut faire face à la réalité. Est-ce que ton couple est en bonne santé? Oui, génial. Tu peux progresser. Ton couple n'est pas en bonne santé? Eh bien, ce n'est pas grave. À aujourd'hui, on va s'en occuper. Assieds-toi, appelle-nous si tu le souhaites, vois ton mari, reprends les notes, étudie-les sérieusement, prie là-dessus, cherche Dieu, travaille là-dessus et je te promets que Dieu fera un miracle en partenariat avec toi. Amen.